C'est Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 21 mai, évidemment. J'espère que vous allez bien et voici la bonne nouvelle du jour. Il n'y a plus que 2 dodos avant le week-end et même un techniquement si on considère que le vendredi soir fait partie du week-end. C'était la bonne nouvelle du jour, c'est tout ce que je peux vous offrir. Je suis Aline, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative par Radio Campus Amiens, bien sûr. Votre émission préférée est disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et en réécoute sur notre site radiocampusamiens.fr. Côté musique, aujourd'hui, la rédaction vous propose 2 morceaux. Tout d'abord, Tara Tada de Imran et The Night We Met de Lord Huron. J'ai essayé. Aujourd'hui, en studio, je ne suis pas seule. Je suis avec Lina et son invité du jour. Lina, je te laisse la parole.
Aujourd'hui, je suis avec Jean-Christophe Eriarte Ariola de l'association de Cardon. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Lina.
On va parler de l'événement Lettura Furiosa. Comment est née l'idée de Lettura Furiosa?
C'est né d'une déception, comme souvent les choses bien. D'une déception d'une sortie au Salon du Livre de Paris avec des personnes qui venaient en apprentissage à l'association Cardan, et de se rendre compte que en fait c'était un beau lieu, Paris c'était intéressant, il y avait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça. Donc ça déjà c'était plutôt pas mal, mais en ce qui concernait la rencontre réelle entre ces personnes et les auteurs, il n'y en avait pas. Donc l'idée ça a été de réfléchir à une forme de manifestation littéraire qui soit pas tout à fait un salon du livre classique, mais plutôt quelque chose qui soit basé sur la rencontre entre des mondes qui normalement vont pas se rencontrer, des auteurs qui écrivent des livres et puis des gens qui lisent pas. A priori, il n'y a pas de moment pour qu'ils se rencontrent, si ce n'est Lettura Furiosa, et que de cette rencontre, il y a un texte qui naisse. Voilà, c'est une idée toute simple, diaboliquement simple, dit Regina Guimarães.
Pourquoi l'avoir qualifié de manifestation?
Justement pour ça, pour pas être un salon, pour être dans une forme, parce que c'est une forme un peu vivante, je dis performative parce que ça se passe sur un temps court, c'est le temps d'un week-end, on part de rien, et dans le courant du week-end, il y a 30, 40 textes qui sont écrits, qui sont imprimés, qui sont illustrés, qui sont lus sur scène, qui sont enregistrés, qui sont diffusés, etc. Et puis autour de ça, il y a plein d'activités avec des livres, avec des mots, avec des lettres, avec des pinceaux, avec des presses, avec des choses comme ça.
En quoi l'événement est insolite, international et performatif?
Alors, insolite, ça c'est le retour qu'on a des, parce que on a une certaine longévité. La première édition a eu lieu en 1992. Du coup, depuis 1992, il y a eu, à peu près 200, 300 auteurs qui sont passés par cette manifestation. Et tous, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc déjà, ça nous rend insolites. International, parce que c'est une manifestation qui a été imaginée ici, à Amiens, par Cardan, avec la librairie Page d'encre et puis les bibliothèques d'Amiens Métropole. Mais il y a eu une espèce d'ouverture à l'international, avec un nom portugais. Et du coup, il y a cette manifestation qui existe en même temps, au même moment, dans les mêmes conditions au Portugal depuis plus de 20 ans. Mais on a pu aussi faire des expériences à Sarajevo en 95, à Kinshasa pendant un certain nombre d'années. Cette année, on met en place la manifestation en Italie, au sud de Naples.
Cet événement existe depuis 1992. Mmh. Comment le festival a-t-il évolué au fil des années ?
Eh ben, déjà en 92, c'était vraiment une espèce d'expérience. Enfin, moi, j'étais pas là, hein, j'étais petit, moi, à l'époque. Mais on m'a raconté. avec 5-6 auteurs, 5-6 groupes constitués de personnes qui venaient sur les activités de Cardan. Et puis comme lieu, la librairie Page d'encre, qui à l'époque était une toute petite librairie, surtout spécialisée jeunesse. Ça s'arrêtait le samedi. Voilà, c'était vraiment voilà, 2 jours. Et puis au fur et à mesure, il y a eu l'expérience qui s'est révélée intéressante, la reconduction, le développement. Et puis quelques années après, justement, grâce à la Maison de la Culture d'Amiens, qui est un partenaire aussi historique et soutien et que je salue parce que voilà, ils nous accueillent chaque année depuis 30 ans, donc ça fait la moitié de leur vie qu'ils nous accueillent. et du coup, là, on a pu ouvrir justement la journée du dimanche, proposer les lectures sur scène, etc. Après, on avait d'abord mis en place des lectures avec des gens un peu habitués à la lecture, des comédiens plus ou moins professionnels, amateurs, mais enfin des gens qui portent. Et puis, on s'est dit qu'au bout de quelques années aussi, on s'est dit que c'était peut-être intéressant que ce soit plutôt les personnes qui ont rencontré des auteurs les années précédentes qui soient les lecteurs de cette manifestation. Et du coup, voilà, ça a amené aussi d'autres choses. Après, on a construit des partenariats avec Porto, avec Lisbonne, avec un lieu qui s'appelle Casa da Achada à Lisbonne, qui du coup aussi développe cette manifestation. C'est pour ça que cette année, il y a une nouvelle ville portugaise qui est Covilhã. Enfin, voilà. C'est un work in progress, un petit peu. Et puis, par exemple, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ce qu'on a appelé des raffus de lecture, c'est-à-dire dans toute la semaine, les 15 jours qui précèdent la manifestation, de diffuser des textes de lecture à haute voix dans la rue, dans les librairies, dans les bibliothèques, mais aussi aux terrasses de bistrot, chez Nicolas Frites, au boulot de Romarou Abdelatif, etc. etc. Diffuser ces textes, diffuser cette envie de lire et de donner envie aux gens d'avoir envie, Johnny, surtout de donner envie de venir écouter des textes le dimanche à la Maison de la Culture, de prendre du temps pour lire, même si on n'a pas trop de temps, d'installer plutôt. Voilà, il y a un jour où on nous a demandé si on ne voulait pas organiser un vrai salon du livre. Et notre réponse à l'époque, ça a été de dire, en fait, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est plutôt transformer la ville en salon de lecture. Voilà.
Qu'est-ce qui rend cette édition spéciale ?
Chaque édition est spéciale puisque chaque édition est unique. Là, ce qui la rend spéciale, c'est on a des soutiens, des coups de main, des partenaires historiques. Donc, l'île aux fruits, ça fait une dizaine d'années qui nous prête des tables pour installer nos ateliers devant les librairies le samedi. Et du coup, là, on fait une soirée, un peu de lancement à l'île aux fruits ce soir avec un groupe un duo de musique qui s'appelle La Joie du Bonheur, qui est en fait constitué par un auteur qui est venu un certain nombre de fois, mais voilà, qui est aussi musicien, etc. Donc voilà, ça fait un peu de choses nouvelles. On a une soirée aussi demain au centre Jacques Tati avec Tudo Bom. Des lectures de textes de Litourin un peu spectaculaires, avec de la musique, des chants, etc. On a cette nouvelle ville au Portugal, une nouvelle ville, un nouveau pays, puisque l'Italie qui rentre dans le jeu. Voilà, il y a beaucoup de nouveaux auteurs, c'est-à-dire des auteurs qui sont jamais venus. Voilà.
Pourquoi avoir choisi Amiens, Porto, Lisbonne et Baronice et Covilha cette année?
Alors, Amiens, on n'a pas choisi, c'est Cardan qui est né à Amiens en 1978, donc bon, voilà, on était là. Porto et Lisbonne, c'est vraiment des rencontres avec des auteurs portugais qui étaient intrigués par le nom de cette manifestation dont ils avaient entendu parler. Et puis, pourquoi donner un nom portugais à une manifestation littéraire française, quoi. Donc voilà, il y a eu des rencontres avec ces personnes. Beaucoup étaient francophones, donc il y en a qui sont venus voir. Et qui du coup se sont dit que c'était vraiment chouette et ont exporté le concept. Et il se trouve que voilà, il y a à Lisbonne en 2005 ou 2006, ce collectif avec lequel on était en lien a ouvert un lieu qui s'appelle Casa da Chada Centro Mario do Nisio, donc une espèce de maison d'écrivains. Et du coup, qui développe aussi des tas d'activités. Donc voilà, on a aussi travaillé sur d'autres projets ensemble. On essaye des fois de se rencontrer autrement que par visio, mais voilà. Et puis Baronici, c'est un peu pareil, c'est des histoires de rencontres, c'est-à-dire qu'il y a une étudiante étrangère venant d'Italie qui est venue voir une fois Leitura Furiosa, qui a dit à la réunion de bilan que quand elle était arrivée, elle avait d'abord rien compris, et puis qu'après elle avait bien compris que en fait ce qu'on voulait montrer, c'est à quel point la lecture c'était un exercice compliqué, abstrait de penser. Et du coup, elle est originaire de ce village, enfin de cette ville de Baronici en Italie. Et du coup, voilà, les partenariats, ils se construisent aussi comme ça, par des rencontres entre personnes, quoi.
Que représente l'arrivée de l'Italie dans le projet ?
Ben justement, alors l'arrivée de l'Italie, bon, ça fait plusieurs années qu'il y a eu des contacts qu'on a essayé, qu'on croyait y arriver il y a 2 ans, puis l'année dernière, et puis ça arrive seulement cette année. Ça, c'est bon, on est dans une troisième langue latine, donc j'ai un intérêt forcément. Et puis il y a cette idée aussi de partenariat, de projet européen, et du coup, voilà. 3 pays européens, ça commence à être intéressant pour un certain nombre de projets qu'on pourrait essayer de développer. Donc voilà, c'est ça que ça représente aussi. Et puis c'est aussi l'intérêt de cette manifestation. Je disais, c'est diaboliquement simple parce que c'est pas si compliqué que ça à organiser. Enfin, je dis ça fait quelques semaines que je suis là-dessus et que je suis un peu fatigué, mais c'est une rencontre, quoi. Donc c'est d'une simplicité à toute épreuve, et les structures italiennes ont été totalement conquises par l'idée, et du coup elles piaffent d'impatience d'essayer, quoi.
Quel type de public souhaitez-vous toucher cette année ?
Tous les publics. Non, mais parce que effectivement, le cœur du réacteur, c'est-à-dire les textes, ils naissent d'une rencontre entre des groupes de personnes qu'on dit fâchées avec la lecture et des auteurs. Mais c'est des textes littéraires, donc ils sont audibles, appréciables par tout le monde. Et du coup, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et parce que des fois, on a un peu cette image qui nous colle à la peau d'être une manifestation pour les personnes fâchées avec la lecture, pour les personnes en situation d'illettrisme. Bien sûr que c'est des personnes avec qui on travaille, c'est un public auquel on est très attentif, mais la manifestation, elle est ouverte vraiment à tout le monde, quoi.
Quels seront les moments forts du festival ?
Alors, j'ai déjà dit, mais donc on a ce soir une soirée musicale à l'île aux fruits avec un stand, des lectures. On a ce petit spectacle tout du bon, donc un peu bilingue franco-portugais, demain à Jacques Tati. On a toute l'après-midi de samedi des animations devant les librairies indépendantes d'Amiens. Et puis dimanche, le spectacle de rendu des textes avec les textes qu'on peut avoir en brochure, qu'on peut voir en affiche. Voilà. Et bon, si on n'est pas à Amiens, si on est à Porto, il faut aller au musée Serra Alves le dimanche à 16h, parce que c'est pareil, il y a la présentation de ça. Si on est à Lisbonne, il faut aller à 15h à Casa da Chala. Si on est à Baron ici, il faut aller à 10h à Open Bar. Bon, là, ils font ça dans un bar, mais voilà. Voilà. Et à Covilha, j'ai oublié le nom du lieu, mais ça s'appelle Collabora. Collabora.
Quel lien faites-vous entre littérature et musique lors de la soirée à l'île aux fruits ?
Ça nous est arrivé un certain nombre de fois d'inviter des artistes chanteurs parce qu'on donnait comme contrainte supplémentaire à quelques auteurs de ne pas écrire un texte en prose, mais d'écrire une chanson. Voilà. Et du coup, on a déjà eu plusieurs chanteurs, chanteuses. Sandra Nkake, qui est venue, par exemple, chanter une ou deux fois pour l'Editora Furiosa. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Et Nicolas Jaillet, qui est donc l'auteur dont je parlais, lui, il est parolier aussi, il a travaillé avec Alexis HK, avec Jeanne Chéral, etc. Donc bon, il y a... Et puis on trouve justement, c'est un des... une des pistes pour les projets européens aussi, de réfléchir à comment il peut y avoir des adaptations musicales de textes littéraires. Donc voilà, tout nous intéresse.
Que proposera le collectif Tout au bon pendant l'apéro-spectacle ?
Alors, il proposera une sélection de textes de l'Editora Furiosa en français et en portugais. Et en musique, et en accordéon.
Quel impact le festival a-t-il sur la vie culturelle locale ?
Je ne sais pas. nous, on est convaincus que ça a un intérêt. On a des retours sur le fait qu'effectivement, beaucoup de personnes qu'on ne voit pas habituellement à la Maison de la Culture qui sont à la Maison de la Culture le dimanche. On est salué par nos interlocuteurs institutionnels qui trouvent que le projet il tient la route, il a une pertinence. On est insolite. Moi, j'essaye souvent de faire valoir l'aspect attractif que ça représente pour Amiens, que d'avoir la seule manifestation comme ça au monde.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Je vous en prie. Je vous remercie. Tout bon, tout mère, un berry, si tu n'y dans tes canaux, mentis qu'on.
جاك قسم منز وطوبة طوبة غنبر سدوني دغطك نرمنتس كومبك ما جاك قسم منز كومبك ما جاك قسم منز كومبك ما جاك قسم منز
Écoutez Taha Tada de Imaran. On continue l'émission avec une chronique théâtre, puisque hier soir, j'ai vu le spectacle Un Sacre de Lorraine de Sagazan avec le texte de Guillaume Poix et bien sûr la participation de Lorraine de Sagazan. Et c'était à la Maison de la Culture. Ce spectacle, c'était une cérémonie théâtrale qui parle des morts, mais pour mieux parler des vivants. C'est une merveille qui éblouit et console, un spectacle en fait que l'on garde en tête et au cœur. Franchement, il est rentré dans mon top 3 des spectacles de la saison, toutes salles de spectacle confondues, donc je pèse mes mots. Pour replacer un petit peu le contexte, Un Sacre est né d'un travail de terrain pendant le confinement, pendant les confinements. C'est 6 mois, des centaines d'entretiens menés par Lorraine et Guillaume, une seule question en fil rouge: quel écho a dans votre vie le mot réparation? Et sans qu'elle les recherche, les récits ramènent sans cesse la présence de la mort. De ces rencontres naît aussi l'envie d'un lieu où athées, sceptiques ou croyants pourraient se retrouver et évoquer la disparition sans tabou. C'est de cette nécessité qu'émerge la pièce, un rituel collectif païen, joyeux et grave à la fois. La mise en scène joue la métamorphose, un plateau qui ressemble d'abord à une maison ou un théâtre abandonné et qui peu à peu se transforme en un jardin luxuriant aux murs troués. Un hôtel se construit sur scène à mesure que les témoignages s'empilent, objets, photos, signes intimes qui deviennent autant de pierres d'un monument commun. Les lumières, discrètes mais précises, accompagnent chaque geste. Le lieu, même abîmé, retrouve grâce à la lumière cette chaleur vitale. Les rituels évoqués sont pluriels, rites corses, cérémonies laïques, invocations païennes. La mort se dit en famille, en coutume et en bribes de langue. La force du spectacle tient à ses interprètes. 9 comédiens, comédiennes qui ne se contentent pas de lire des textes, mais incarnent des vies. Il et elle deviennent la fille qui n'a pas pu dire adieu à son père mort du Covid, l'adolescent gardien d'un souvenir héroïque, l'homme atteint d'un Alzheimer précoce qui confie ses dernières volontés. Rompant avec tout pathos facile, la troupe rend ses récits à la fois touchants, insolents et parfois drôles. Parce que oui, on rit, on s'émeut, on s'indigne. La colère de la perte affleure, mais c'est la tendresse en fait qui demeure. Par moments, la danse, signée Silver Lamotte, porte ce qui dépasse le langage. Des compositions hypnotiques, des chœurs où en fait ils dansent ensemble en rythme et vraiment ça accompagne le texte. C'est vraiment une alternance texte-danse qui crée une sorte de catharsis hyper réelle. Un sacre ne se contente pas d'être intime, il renvoie aussi aux politiques. En toile de fond surgit la question contemporaine de la fin de vie avec la loi Claes Leonetti, le débat sur l'aide à mourir qui est au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, puis à l'Assemblée nationale en ce moment, mais aussi la mise en lumière de situations humaines que la législation peine à couvrir. Le spectacle n'impose pas de réponse, mais il montre l'urgence d'un lieu, d'un langage pour parler de la mort et accompagner ceux et celles qui souffrent. Ce n'est pas un pamphlet, c'est une mise en scène humaine qui met en miroir nos lois, nos craintes et aussi nos écueils. Visuellement et scénographiquement, le travail est d'une grande ingéniosité. Les parois qui s'ouvrent, l'autel qui s'élève, l'explosion progressive des couleurs, tout signale la transformation d'un deuil individuel qui en devient en fait une célébration commune. Les miracles scéniques abondent, surprises, moments de pure beauté qui redonnent vie aux objets du quotidien et un humour loufoque qui n'est jamais très loin. Ce sacre est une pièce qui répare. Elle réconcilie avec la perte en rendant la parole aux vivants. Elle interroge les manières de tenir la mort sans la réduire au silence. C'est un spectacle à la fois cru et consolateur. Ça nécessite du temps, les besoins, les lieux, ça nomme tout ça. En sortant, je me suis donc rappelée que pour parler de la mort, que parler de la mort, en fait, c'est aussi parler des vivants. Des sujets qui interpellent la société, les violences intrafamiliales, l'enfance, l'amour familial et l'amour tout court d'ailleurs, la maladie. C'est aussi raconter des histoires de vie, des personnes que l'on croise sans les regarder ou même de nos proches. Pendant la représentation, on est vraiment ému, mais aussi on est en colère, non pas pour les morts, mais pour les vivants, ceux et celles qui souffrent de la disparition d'êtres chers, et ceux et celles qui souffrent de leur présence pendant leur vivant. On ressent tout ça, on ne s'ennuie pas, on est capté autant par les histoires de vie que par la performance des acteurs et des actrices. Allez voir ce spectacle si vous voulez éprouver, reconnaître et comprendre et peut-être même apprendre à nommer ce qui souvent reste inavoué. Il sera joué ce soir à 19h30 à la Maison de la Culture et il reste quelques places. Avant de se quitter, j'ai eu envie aussi de vous teaser un petit peu le programme de la semaine prochaine. En effet, en plus et à la suite d'InfoClub Sandwich, vous pourrez écouter une émission spéciale sur le week-end de Saint-Leu. Au programme, des interviews, des reportages, et ce, toute la semaine, du 25 au 29 mai. C'est déjà donc la fin d'InfoClub Sandwich. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Et comme d'habitude, on se quitte en musique avec aujourd'hui The Night We Met the Lord Huron. Merci de nous avoir écoutés et restez à l'écoute de Radio Campus Amiens. I am now.
take me back to the night we met. Then that I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. Then that I can't tell myself not to ride along with you. Yeah.